可惜，高景。
Rien qu'était de grand témoin aujourd'hui s'appelle Prosper Mouchobekwana Lukemba. Il est ancien député et ancien maire de la ville de Bukavu.
Avec le même plaisir, pour le même devoir, je suis à Bukavu dans la province du Sud-Kivu pour vous faire découvrir celui qui sera notre grand témoin de ce jour. Il s'appelle Prosper Mouchobekwa Nialukemba, ancien maire de la ville de Bukavu. Monsieur Mouchobekwa, merci de nous recevoir chez vous.
Tout le plaisir est pour
vous. Voilà, avec vous dans cette émission, nous allons vous faire découvrir auprès de nos auditeurs. C'est vrai que certaines personnes vous connaissent déjà, mais nous, nous irons dans les plus petits détails pour vous faire découvrir auprès de tous ces auditeurs qui nous suivent sur Radio Okapi. Mais vous aurez aussi à nous donner votre témoignage sur le 50e et nous dire comment vous avez vécu l'indépendance. Nous n'en sommes pas encore là. Commençons d'abord par vous présenter auprès de nos auditeurs. Vous vous appelez Prosper Mouchobekwa Nialukemba. Vous êtes né où et quand?
Je suis né à Bukavu en 1940, à Kadutu. Et après ça, j'ai fait mes études primaires ici à Bukavu et à Mugeri. À Mugeri, c'est du côté de Katana. Et puis, je suis allé au séminaire, ça n'a pas marché. Dieu merci.
Dieu merci, pourquoi?
Et pour n'avoir pas atteint la vocation.
C'était pas votre vocation?
Non, c'était vraiment pas ma vocation.
On vous a forcé à aller au séminaire?
Non, on n'a pas forcé, mais on était en admiration devant le prêtre quand il était à l'hôtel. Je disais que c'était le meilleur de métier que d'être prêtre. Et nous tous, nous y sommes allés comme ça.
Et vous avez passé donc votre enfance à Bukavu?
À Bukavu. Et après ça, je suis venu au collège à Saint-Paul, pour le moment ça s'appelle Kitumaini, parce que je vivais dans une école médicale, mais il fallait avoir terminé les humanités et le cycle inférieur des humanités. C'est que je suis allé au collège Kitumaini, après la 4e gréco-latine. L'administration belge est venue tirer au sort et nous avons été enrôlés dans l'armée. À ce moment-là, ils avaient déjà, je disais, ils voulaient vraiment réformer l'armée. Il ne fallait pas qu'il y ait une armée uniquement composée des hétéroclites qui ne savaient pas lire ou qui savaient à peine lire.
Donc, en 4e des humanités, vous avez intégré l'armée?
Si j'ai intégré l'armée, je suis allé à Rumangabo. Nous étions au nombre de 6. Il y a 3 qui étaient venus du collège Kitumaini et 3 qui étaient venus de Nyangezi. Quand nous sommes arrivés à Rumangabo, ça n'a pas marché. On m'a réformé. Donc, j'étais malingre, un tout petit peu là, ils m'ont dit que j'étais inapte, je suis revenu ici. Alors, je suis entré dans l'école des assistants médicaux. Que j'ai terminé en 1961. Et après cela, bon, je suis entré dans la vie professionnelle. J'ai travaillé à Bukavu et puis à Goma, dans le Nord Kivu, pendant plus de 5 ans.
Dans le domaine médical?
Toujours dans le domaine médical, spécialement l'hygiène, l'assainissement. J'ai démissionné, mais je me suis lancé dans les affaires.
Bon, revenons en arrière, parlez-nous de votre enfance. Vous étiez quel genre d'enfant en grandissant?
Il y a des collègues qui sont ici qui auraient pu vous dire quel genre d'homme j'étais, mais j'étais un petit bilan. Je suivais beaucoup malgré l'interdiction, bien sûr en cachette. Et j'aimais beaucoup jouer. Et marauder aussi. Mais c'était surtout jouer au football. Là, j'ai beaucoup aimé.
Et le plus beau souvenir que vous gardez de votre jeunesse à Bukavu?
C'est la vie en communauté. Et puis, il n'y avait pas de ségrégation, il n'y avait pas de tribalisme. Et donc, tout le monde s'aimait bien. Je dis vraiment s'aimait bien. Et chaque personne que vous rencontriez, et comme il n'y avait pas beaucoup de gens à Bukavu, et on devenait automatiquement amis ou frères. Donc, c'est tout cela. Et c'est ce qui fait que, pour le moment, je suis un peu déçu par le comportement de la population, de voir que la population fait beaucoup de vivre dans le tribalisme. Et le tribalisme négatif. Alors qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas. Je pouvais aller chez quelqu'un du haut Zaïre. Je ne savais même pas qu'il était du haut Zaïre. Je pouvais aller chez quelqu'un du bas Congo et c'était la même chose. Et maintenant, on se demande chaque fois qu'on va quelque part, il est d'où celui-là. Et il vient d'où? Qu'est-ce qu'il va faire de moi? C'est le plus grand souvenir que j'ai gardé de ma jeunesse.
C'est dû à quoi ce tribalisme qui bat son père actuellement?
Ça commence, je pense, c'est tout d'abord l'égoïsme. C'est l'égoïsme et la paresse. Et les gens ne travaillent pas. C'est peut-être leur faute, parce que c'est la faute du pouvoir. Ils n'ont pas de boulot. Alors, chaque fois qu'il y a quelque chose, on regarde d'abord qui est là. Est-ce que je peux embaucher celui-là au détriment de mes frères de tribu? Est-ce que celui-là peut me donner à manger? Et celui qui monte, est-ce que vraiment il me reconnaîtra demain? Comme si un responsable devait connaître tout le monde. Et je pense que c'est cela surtout la cause. Et bien sûr, les différentes guerres sont venues exacerber cette situation.
La femme, je savais quoi, il est marié?
Je suis marié et père de 9 enfants, hein, tous les enfants de la vie. Je vais faire cela avec ma femme. Je n'ai eu qu'une seule femme, c'est la race.
Quand vous êtes juste sur ça?
Non, parce que la plupart des gens de mon âge ont un peu tâté partout. Il y en a qui sont devenus polygames. Il y en a qui ont divorcé. Non, non, moi, je vais garder sur la même épouse. Et Dieu merci. C'est grâce à elle que je suis ce que je suis. Pas de très turbulent.
Radio Capi, grand témoin.
On ne peut pas trop faire Mouchovikwa, retracer un peu votre parcours politique. Comment vous vous êtes retrouvé dans la politique?
Je me suis retrouvé dans la politique parce que quand le président Mobutu a pris le pouvoir, nous avons remarqué que quand il y avait l'élection à Bukavu, il n'y avait que des gens qui n'étaient pas nés à Bukavu. Donc tous les députés qui venaient de Bukavu étaient des gens qui étaient venus. Des Congolais qui étaient venus pour vivre à Bukavu. Alors, les gens ici, ils n'étaient pas bouchés, ils avaient un retard dans leur tête, ils ne voulaient pas faire la politique. Bon, avec quelques camarades, tels que Irengue, je le connais, Bigosi, nous sommes dit non, non, il est temps que nous aussi, nous puissions faire la politique ici, dans votre ville. C'est ainsi qu'ils m'ont choisi, ils ont dit, bon, toi, tu vas te présenter, et on se présente aux élections. Dieu merci, j'ai réussi, je suis passé comme
là, vous parlez de quelle élection?
Élection législative, hein? Ah, le temps de Mobutu, à l'époque de Mobutu, pas maintenant, à l'époque de Mobutu. Je suis passé commissaire du peuple en 82. Je suis resté 5 ans à Bukavu. J'ai étudié, j'allais aux séances au Parlement et le soir, j'allais à l'Institut des Affaires à Kinshasa. Donc, ils faisaient les cours du soir là-bas.
Le matin, vous êtes à l'Assemblée?
À l'Assemblée.
Et le soir? Et
à 17h, je suis à l'Institut des Sciences d'Affaires. L'Institut des Affaires. Oui.
Et comment vous arrivez à concilier les deux?
Bon, tu sais, le Parlement à cette époque, hein, on a réussi beaucoup plus pour le parler pour le peuple. Donc, nous étions presque une chambre d'enregistrement. Donc, il n'y avait pas beaucoup de boulot. Il n'y avait pas de boulot, tout était fait, et puis nous, on enquêtait, on enregistrait, on applaudissait, et puis ça passait. Donc, il y avait vraiment tout mon temps.
Après la fonction de commissaire du peuple?
En 1985, je me suis représenté. Et je n'ai pas été élu titulaire, j'ai été élu suppléant. Alors, quand la conférence a commencé, celui qui était titulaire a démissionné, et moi, on m'a appelé à Kinshasa. Et je suis devenu commissaire du peuple, mais je suis resté seulement 3 mois. J'ai aussi démissionné.
Pourquoi? Quelle était la raison de votre démission?
Bon, vous voyez que la politique commençait à changer et la population ne voulait plus d'un père. Et comme j'avais été élu ici et que la population n'était pas d'accord que j'aille au Parlement, alors j'ai dû démissionner.
Et pour faire quoi par après?
Bon, je suis allé labourer les choses. Et c'est de là que on m'a appelé pour venir ici à la mairie.
Mais qui vous a rappelé?
Ah, le pouvoir, le président Kabila.
Kabila le père ou le fils?
Non, le fils. Il y a très longtemps que j'étais à la mairie. C'est le président actuel. Mais avant ça, quand la rébellion est arrivée, j'ai été dans l'Assemblée provinciale. J'ai dirigé l'Assemblée provinciale ici pendant 3 ans. Et après cela, bon, alors j'ai continué à la promotion et de là on m'a appelé pour venir diriger la mairie ici à Bukavu.
Pourquoi le choix sur vous pour diriger la mairie?
Ah, simplement je ne saurais pas le dire, hein. Je ne saurais pas le dire. Une chance.
Une chance, il y a quand même beaucoup de notables ici, mais pourquoi vous ne vous êtes même pas posé cette question de savoir pourquoi le choix sur moi?
Non, c'est peut-être parce que j'ai toujours vécu ici. Je n'ai jamais quitté Bukavu d'une façon prolongée. Et j'étais très connu ici. Et je crois que les autorités nationales s'étaient dit que bon, le vieux là, il peut essayer de diriger cette mairie parce que les gens ici sont des gens compliqués. Pour vivre ici, diriger ici, ce n'est pas du tout facile. C'est peut-être à cause de mon âge qu'ils m'ont choisi.
Vous avez passé combien de temps à la mairie?
J'ai passé 2 ans à la mairie.
Comment s'est passé votre travail? Ça s'est bien passé, sans difficulté?
Ah, il y avait beaucoup de difficultés. Hein. Mais ça, j'aurais voulu que ce soit les autres qui le disent. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé de restaurer l'autorité de l'État ici à Bukavu. J'ai essayé de remettre les gens au travail. J'ai essayé de sécuriser la ville tant mieux que mal. Mais je n'ai pas eu les moyens comme les autres en ont pour le moment. Je n'ai jamais eu de rétrocession de Kinshasa, jamais. Donc nous avons fonctionné avec le petit recette du marché, recette à gauche, à droite, et qui n'était pas suffisante. Mais quant au travail que j'ai pu faire à Bukavu, vraiment j'aurais souhaité que ce soit les autres qui en parlent. Hein. Mais on a fait ce qu'on a pu. Et je pense que ce n'était pas négatif.
Papa Prosper Mouchoubé, parlant de l'indépendance du Congo, en 1960, lorsqu'on a proclamé l'indépendance du Congo, vous étiez où?
J'étais ici à Bukavu et j'étais dans la 20e année de l'école des assistants médicaux et sanitaires. Mais à ce moment-là, bon, nous sommes tous embarqués dans l'indépendance immédiate. Et donc, nous avons adhéré à un parti qu'on appelait CEREA, contre le regroupement africain, qui était dirigé par M. Kachamola. Nous avons milité là-dedans. Donc, on a fait du bruit, on ne savait pas exactement c'était quoi l'indépendance, c'était quoi l'indépendance, c'est que les Blancs partent et nous, on va se diriger. Mais on n'avait pas vu devant qu'est-ce qu'il y aurait comme difficulté. Je pense que c'était une bonne chose. Mais c'était vraiment, moi, personnellement, c'était trop tôt.
Pourquoi vous pensez que c'était trop tôt?
Bon, parce que les Belges n'ont pas formé les Congolais. Hein. Ils en ont formé un très petit nombre. Très petit nombre. Et ce n'était pas suffisant. Il n'y avait pas l'expérience pour pouvoir diriger tout ce Congo. Et j'ai estimé, moi, plus tard, hein, à posteriori, que c'était vraiment trop tôt, les balances que nous avions accordées.
Ce jour-là, le 30 juin 1960, quelle était l'ambiance ici à Bukavu?
L'ambiance était la liesse. Hein. Mais tout le monde buvait à gauche, à droite, et comme tout le monde avait les moyens à cette époque, parce que tout le monde, je dis bien tout le monde, que ce soit les maçons, que ce soit les domestiques, que ce soit les commis de l'État, tout le monde avait les moyens de pouvoir vivre et de pouvoir.
C'était une belle vie, quoi.
C'était une belle vie, effectivement. C'était une belle vie. Et alors, bon, on a bu, bon, on a dansé, et c'était surtout Lumumba. Nous avons une indépendance, le chef de l'État c'était Kasavubu, mais c'était ici le Lumumba dont on parlait tout le temps. Le Lumumba, donc même notre parti, le CEREA, était derrière M. Lumumba. Je crois que tout le monde était naïf, nous sommes tous dit c'est bien que les Blancs partent, tout ça. Et c'est après que nous avons commencé à voir que ce n'était pas bien que les Blancs partent comme ça, et qu'ils partent sans laisser des gens qui soient capables de pouvoir gérer ce pays.
Il y avait des Blancs qui vivaient à Bukavu. Oui. Est-ce qu'ils sont partis directement après la proclamation de l'indépendance ou bien ils sont restés quelques temps encore?
Les Blancs qui étaient méchants avec les Nègres sont partis, même avant le 30 juin. Mais les autres qui n'avaient rien à se reprocher, ils sont restés. Ils sont restés 5 ans. M. Kachamoura prendra le pouvoir ici quand il y a eu sécession de Isengan, Gbenye, Soumialo, et que Kachamoura est venu ici. À ce moment-là, tous les Blancs ont fui. Ils sont partis parce que ce n'était pas bon. On les tabassait à gauche, à droite, on les maltraitait. Hein. Ils sont tous partis. Et donc, nous sommes restés seuls.
Et donc, la gestion de la province était entre les mains des Congolais.
Entre les mains des Congolais, le tout premier, c'était le feu Miruhoza. C'était très sélectif. Et comme chaque gouverneur et chaque fonctionnaire voulait essayer de copier un peu ce que faisait le Blanc, et donc ces gens-là ne se sont pas enrichis, pas du tout. Ils étaient droits. Il y en a qui sont morts comme ça, dans la misère, parce qu'ils n'ont pas voulu voler et prendre de l'argent public pour leur propre intérêt. Ils ne savaient pas, ils voulaient tout simplement continuer à faire ce que le Blanc faisait. Ils n'avaient pas de vision. Ils n'avaient pas de vision, ils voulaient travailler comme des fonctionnaires, et c'est comme ça. Mais comme il y a toujours eu des problèmes ici, maintenant nous sommes en train de revivre la même chose. On changeait le gouverneur presque chaque année. Motion de censure, comme il y avait une assemblée aussi, renvoi, prison, tout ça. Nous avons eu plusieurs gouverneurs ici.
On dit que c'est la province qui a eu le plus des gouverneurs dans tout le pays.
Effectivement, c'est nous qui détenons la médaille d'or du changement des gouverneurs.
C'est dû à quoi, à votre avis?
Bon, je crois que c'est dû surtout au caractère, je pense, de nous. Nous, les gens du Sud Kivu. Les gens du Sud Kivu veulent tout avoir et tout de suite. Alors, ils se découragent très vite. Il suffit, je me souviens, quand le président Kabila est passé ici, qu'il a dit qu'il allait construire les routes, qu'il allait faire le monument qui se trouve à la place du 24, il y a des gens qui se sont levés le lendemain et qui disent « Oh, vous les voyez en tout cas du moins ?» Mais je crois que quand le président parle, donc directement, ça doit commencer. Et c'est surtout ça, ils sont trop pressés. Tous ces différents gouverneurs qui sont partis, ils n'ont pas été tellement mauvais, mais les gens sont toujours très, très, très pressés. Comme le chantier, le 5 chantiers du chef de l'État, ils croient que le pays, on peut le faire en 5 ans. C'est pas possible. Après tout ce qui s'est passé pendant les années antérieures, toute la destruction qui a été faite dans le pays, on ne peut pas faire ça dans 5 ans. Donc, ils ne peuvent pas comprendre facilement, non, il faut un début, et ça va aller tout doucement. Donc, on veut tout de suite des résultats. Et c'est pour ça que le gouverneur ne reste pas longtemps. Le gouverneur peut commencer un programme, mais bon, s'il se comporte un peu mal, il ne te donne pas tel service, tu peux entrer dans la population, et comme il y a la misère, raconter n'importe quoi. Et les gens avalent, ils avalent très facilement. Donc, c'est surtout la naïveté.
Papa Prosper, aujourd'hui, 50 ans après, et quel bilan vous dressez du parcours de la RDC?
Pour moi, négatif. Il est négatif parce que le Congolais est resté stationnaire, si pas. Il a reculé beaucoup plus. Quelques personnes se sont enrichies, bien sûr, mais ce n'était pas comme ça que le Congo devait être. Il fallait que toute la population retrouve une vie normale et qui monte petit à petit. Une classe moyenne forte, mais au contraire, les gens s'appauvrissent et d'autres s'enrichissent, et surtout d'une façon illicite. Mais pour ça, je crois que les 50 ans d'indépendance ont été négatifs pour moi. Pour moi, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu de spécial. Au contraire, nous avons reculé.
Sur tous les plans, rien n'a marché.
Sur tous les plans.
Bon, certaines personnes...
Vous m'avez donné un exemple, vous dites là-bas, ça a marché, mais je ne vois pas qu'est-ce qui a marché.
Certaines personnes disent qu'à l'époque coloniale, on n'avait pas des universitaires au pays, mais maintenant, il y en a beaucoup quand même.
Il y en a beaucoup, mais de quel niveau? Il y a des universitaires, ici, tu fais une dictée ici de 6 pages. Non, des 6 lignes, je veux dire. Non, il y a par exemple 40, 50, 60 fautes d'orthographe dans 6 phrases. Donc, c'est vraiment l'université. Il y en a qui ont de bonnes universités, mais maintenant il y a plusieurs universités et la qualité n'est plus bonne.
C'est un anniversaire à ne pas fêter avec Pâques parce qu'il n'y a rien de positif.
Nous devons fêter avec Pâques parce que maintenant nous sommes en train de cheminer vraiment vers un pays démocratique. Peut-être qu'avec ça, nous allons aller plus vite, puisque ce ne sont pas les cerveaux qui nous manquent. Nous avons des cerveaux, mais ils sont mal encadrés par le gouvernement. Moi, je crois que dans une dizaine d'années, ça sera vraiment nettement mieux que maintenant.
50 ans, vous dites que rien n'a marché, vous pensez qu'en 10 ans, ça va aller?
Oui, vous voyez pourquoi ça ne va pas, je pense, moi. Tous ces jeunes gens-là, ils ont fait l'université, tous ils ont fait de l'université, mais il n'y a pas de boulot. Du matin au soir, ils boivent, ils jouent aux cartes, ils jouent aux dames. Pourquoi l'État dépense tout cet argent pour faire étudier les jeunes gens, et après, on ne les utilise pas. Et il ne faut pas s'étonner qu'ils aillent prendre les armes. Ils apprennent qu'il y a quelqu'un qui peut leur donner quelque chose, ils vont prendre les armes. Et je pense que tout cela va cesser. Et il ne doit pas prendre les armes pour faire entendre sa voix. Il peut se faire entendre par le canal, d'un député, par la radio. Non, vraiment, les gens ont la liberté d'expression. Et ça va beaucoup nous aider.
Donc c'est un message d'espoir, les 10 années qui viennent.
Bien, oui, si ça continue comme ça. S'il n'y a pas, qui veulent tricher. S'il y en a qui veulent tricher, alors nous allons encore reculer. Mais si tout le monde veut aller de l'avant, dans 10 ans... Je te donne rendez-vous. Je pense que je serai là. Et vous me direz, oui, papa, vous aviez dit que dans 10 ans, ça pourrait aller bien. Ça ne va pas marcher à 100%, hein. Mais déjà, nous verrons la lumière.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Papa Prosper, vous savez quoi, comment vous passez vos moments de loisirs?
Au moment de loisirs, je vais souvent au Tchad. Je suis un ancien joueur et ancien dirigeant de Bukavu Dawa. Après ça, bon, je rencontre les amis et nous échangeons sur ce qui s'est passé et sur ce que nous vivons pour le moment. Mais moi, mon vrai loisir, c'est de planter les fleurs.
Vous aimez les jardins?
Ah oui, j'aime beaucoup les jardins. Quand je ne peux pas aller au match, quand je suis à Katana, je m'occupe uniquement du jardin. Les arbres exotiques que je plante ailleurs, que je vais essayer de replanter ici chez nous, et ça me prend beaucoup de temps. J'aime voir l'arbre pousser.
Vous dites que vous aimez le foot. Vous avez joué au foot?
J'ai joué au foot pendant 15 ans. Dans Bukavu Dawa toujours. J'ai toujours été fidèle dans mes engagements. Pendant 15 ans, j'ai joué dans Bukavu Dawa. Après ça, je suis devenu président de Bukavu Dawa. Et puis, je suis devenu président de la Ligue. Donc, vraiment, j'ai beaucoup évolué dans le foot.
C'est votre sport préféré, en fait?
Oui, c'est mon sport préféré, effectivement. Ouais.
Parlons de la ville de Bukavu. Mmh. De plus en plus, on parle d'insécurité dans la ville de Bukavu. Mmh. Vous avez été maire de la ville. C'est dû à quoi, cette insécurité? Toujours la misère du peuple?
Non, d'abord, c'est le surarmement. Il y a beaucoup d'armes qui circulent. C'est chaque fois comme ça, après une guerre comme ça, il y a beaucoup d'armes qui circulent. Et les gens qui détiennent ces armes-là ne sont pas suffisamment payés. Ils ne peuvent se nourrir que grâce à leurs armes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'insécurité. Et tous ces jeunes qui n'ont rien à faire. Voir quelqu'un, il n'a pas reçu de crédit à la banque, on ne fait pas d'ultime l'argent. En une semaine, en un mois, il construit un immeuble de 5-6 étages. Et lui qui était à l'université, bon, il n'a même pas de quoi manger. Mais beaucoup entrent dans ces histoires-là d'insécurité des autres pour pouvoir aussi paraître comme les autres. Je crois que c'est tout ça. Mais quand le gouvernement aura réussi d'abord à donner du boulot aux jeunes, je pense que la sécurité va cesser. Je me souviens qu'à un certain moment, il y avait eu la sécurité juste avant qu'il n'y ait eu le génocide au Rwanda. Il y avait beaucoup d'insécurité. Mais quand je suis venu se passer au Rwanda, il y a eu beaucoup de réfugiés, il y a eu beaucoup d'ONG qui sont venus et beaucoup de jeunes gens ont été embauchés. À ce moment-là, il y a eu une certaine accalmie. Et bon, dans la ville, il n'y avait pas d'insécurité, bien sûr, la guerre était là, mais on pouvait se promener toute la nuit parce que les jeunes étaient occupés. Les jeunes ont été occupés. Si un jeune investira du boulot, il engage un domestique, et je ne sais pas moi, il engage une sentinelle. Aussi, tout ça, ça fait vraiment profiter à tout le monde.
Et vous, quand vous étiez maire, qu'est-ce qu'on avait fait pour essayer de mettre fin à cette insécurité?
Bon, j'aurais souhaité que ce soit les autres qui répondent à cette question. J'ai surtout travaillé avec les cellules de base. C'est-à-dire, j'ai surtout travaillé avec les comités de base, tels que les chefs de cellule, les chefs de quartier, comment les associations de quartier. Mais pour pouvoir se sécuriser, on a acheté des sifflets, j'ai distribué des téléphones à tous les chefs de quartier, les chefs de cellule, les présidents, les mouvements de jeunes dans les quartiers. Et nous avons essayé de juguler vraiment la sécurité. Oui, nous avions un bon commandant de la police, il est toujours là. Je ne sais pas pourquoi maintenant ça ne va pas alors qu'il est toujours là. Alors que c'est avec lui qu'on a vraiment travaillé beaucoup ici dans la ville de Bukavu. Et nous avons réussi à diminuer l'insécurité. Nous ne l'avons pas jugulé. Nous avons réussi à diminuer. Maintenant, ça a repris les gens à gauche, à droite. Et nous avons installé des conteneurs dans chaque cellule. Et nous avons mis des policiers dans chaque conteneur. Nous avons les policiers qui étaient partis dans la ville. Maintenant, je crois que avec le pouvoir, ils peuvent être en train de s'en occuper parce que ça leur a beaucoup préoccupé et beaucoup dérangé le programme du gouvernement de sécurité. Et nous croyons que ça va aller jusqu'à l'esprit. Surtout après les prochaines élections, ça va encore aller mieux. Tous ces aigris-là qui ne sont pas contents, bon, si nous n'avions qu'à aller aux élections, nous voulons faire changer les choses.
Alors, Papa Prosper Mouchoubikoua, je rappelle que vous êtes ancien maire de la ville de Bukavu. Vous êtes une personne très connue dans la ville. Il suffit qu'on cite souvent votre nom. Ah, le maire de la ville. Est-ce que vous avez un message particulier, un dernier message, nous sommes à la fin de l'émission, adressé à tous ces Congolais, à tous ces garçons de Bukavu, ces filles de Bukavu qui nous suivent en ce moment sur Radio Okapi?
Le seul message, c'est le message d'espoir. Parce que vraiment, j'ai de l'espoir. Je crois que les choses vont continuer à s'améliorer au jour le jour. Mais les choses ne peuvent pas s'améliorer d'elles-mêmes. Il faut que nous y mettions les nôtres aussi. Il faut que chacun de nous se dise à l'autre. Il faut que ça change. À un certain moment, nous avons décidé Bukavu s'en fâcher. Nous avons réussi en partie. Il n'y avait pas de moyens. Moi, j'allais sur la route, j'ai ramassé les sachets. Moi, individuellement, j'allais sur la route, j'ai ramassé les sachets. Et puis les gens ont commencé à se dire, c'est plus, on peut terminer ce phénomène sachet. Et vous voyez chacun ramasser les sachets. Bon, ça a diminué un tout petit peu. Donc, quand la population s'y met, on peut réussir. Nous avons essayé de discipliner les motards. Les motards ne voulaient pas porter de casque, mais ils l'ont porté parce qu'on leur a montré que l'État existe. L'État n'est pas mort. Et donc, tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi dans la ville de Bukavu. Je crois qu'à tous ces jeunes-là, c'est un message d'espoir et d'être persévérant. Parce que les garçons bègues, les bicaviens, veulent être dirigés par les gens qui s'occupent. Et bien sûr, chaque dirigeant doit savoir qu'il doit faire son élection. Il doit prioritairement s'occuper de la population. Quand vous occupez de la population, vous n'aurez pas de problème. Mais quand vous oubliez la population, vous aurez certainement des problèmes ici. Alors, je ne peux que leur dire, les encourager à toujours dénoncer le mal et à combattre le mal. Et essayer aussi, ne pas avoir l'habitude de condamner toujours, essayer de faire du bien, essayer de corriger les autres, mais pas toujours les condamner et vous mettre à leur place. Parce qu'il n'y a personne qui peut faire des miracles. Tant de miracles déjà passés après le départ de Jésus.
Papa, Prosper Mouchoubikoua, c'était un plaisir de vous rencontrer. Et on vous souhaite toutes les bonnes choses. Hein.
Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup vraiment de m'avoir déniché quelque part ici parce que j'étais au fin fond de Bukavu. Et c'est là où je vis pour le moment. Et je viens de temps en temps ici à Bukavu. Ici où nous sommes, c'est une maison de passage. Tous les enfants ont grandi. Dieu merci. Je merci à Dieu. Donc, je vis avec ma femme. Maintenant, bon, les petits-enfants partent. S'ils ne veulent pas venir à Katana, ils restent ici, ainsi de suite. Mais je mène une vie tranquille. Mais je ne suis pas fini. Je veux continuer à travailler. Ma tête est encore sur mes épaules.
Lucide.
Oui, je suis encore lucide.
Ok, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'est c'est la fin de cette émission. Je rappelle que je recevais pour vous Prosper Mouchobekwana Lukemba, ancien député et ancien maire de la ville de Bukavu. Merci à William Lungamba qui était à la technique au micro auquel il écoutait. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. N'hésitez pas, si vous avez des réactions ou des questions, allez-y, écrivez-nous sur la page de Grand Témoin sur notre site internet. Merci à vous tous qui nous suivez à travers toute la RDC et partout dans le monde.